qu'on soit au courant. Je participe à quoi, moi?
T'as-tu enregistré ça?
Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de La pluie et le beau temps. Aujourd'hui, on a un épisode bien spécial où on va parler des limites avec mes invités, donc Nicolas Centeno, qui est co-directeur artistique des créations Unique Nu. Allô Nicolas?
Bonjour!
Adrien Belougou, qui fait partie cette année de la délégation du Cube au Festival de la RTA, donc tu assistes avec un groupe d'artistes émergents de la relève, tu assistes à tout le festival, au spectacle, au chantier, aux médiations, à la journée pro, etc. Et tu es aussi acteur et enseignant d'art dramatique au secondaire.
C'est moi!
Ensuite, on a Marilyn Perrault, qui est co-directrice artistique du Théâtre Inc. et co-directrice du Théâtre aux Écuries. Allô, Marilyn.
Allô!
Bienvenue.
Merci.
Et François Hurtubise. Bonjour, François Hurtubise.
Allô!
Alors, François Hurtubise, qui est responsable de la diffusion et de la médiation culturelle pour la ville de Laval et accessoirement co-fondateur de la rencontre Théâtre Ado. Merci d'être avec nous.
Ça me fait plaisir.
Wow. Et la dernière, mais non la moindre, on a Jacinthe Laurier-Thibault, qui est directrice générale du réseau Petit Bonheur.
Bonjour!
Allô. Ça va bien?
Oui, ça va bien, toi?
Oui, merci tout le monde d'avoir plongé dans cette activité que vous ne saviez pas, je pense, que vous alliez participer à l'enregistrement. Vous pensiez simplement regarder un enregistrement de balado. Est-ce que ça joue sur votre limite de confort, ça? Participer au balado?
Moi, oui. Oui, ça va en plein dans le mille, dans la thématique. Hein. Je me demande même si c'était pas voulu, tout ça, là, si tu as voulu nous prendre un peu au dépourvu dans la description. C'était bien écrit quand même.
Si on lit la description,
peut-être qu'on l'a interprété comme on le voulait, là, mais je suis content, quand même de pouvoir partager des idées puis de me prêter au jeu.
Qu'est-ce qui te rend comme un peu inconfortable? C'est-tu le fait que c'est comme gênant ou que c'est la surprise, que tu t'attendais pas à ça? C'est quoi exactement cet inconfort-là?
Bien, je pense le confort vient de la position de passivité. Donc, on se met dans un état le matin où on va assister à des conférences ou des discussions, puis ça nous met un peu dans un état de confort où on est un peu protégé, puis on regarde les gens qui parlent, et même si c'est super intéressant, on est quand même dans cette position-là de confort ou de passivité, mais là, c'est déstabilisant d'être dans la posture active où il faut qu'on dise qu'est-ce qu'on pense. Donc, ça, ça réveille, mais...
ça réveille.
C'est parfait.
Ça
c'est,
ou
c'est
un
super.
Red Bull.
J'adore. Oui.
Mais t'as l'air à l'aise quand même.
Oui. Ah, écoute, je suis vraiment à l'aise. Moi, tu me dis, tu sais, je suis comédien aussi de formation, puis il faut s'adapter. Donc, parfait. Let's go.
Jacinthe, toi, est-ce que c'était quand même un petit stress de découvrir que t'allais parler, enregistrer le balado?
Oui, absolument. En fait, je pense que je ne me serais pas inscrite sinon.
Mais on est vraiment
contents
que tu sois
là. C'est une belle
là.
Expérience. C'est correct.
Puis vivre comme cette ça. Zone-là d'inconfort, c'est quoi exactement? C'est-tu de la gêne? Qu'est-ce qui fait en sorte, mettons, que tu aurais fait « Ah non, je ne m'inscris pas à ça », tu sais?
Bien, un peu ce que tu disais. Je me souviens plus de ton nom.
Nicolas.
Nicolas
Centeno, des créations Unique Nu. Co-directeur artistique.
Bon. C'est que je ne m'étais pas préparée. Je pense que si je m'étais préparée avec l'idée, ça aurait été différent, mais ouais.
Fait que l'imprévu, fait que t'es mieux arrivé préparé aux choses.
Oui.
Je comprends. D'autres que ça rend un peu inconfortable quand même, Marilyn, tu me fais des yeux souriants comme...
Ben, comme une fille de théâtre, ou est-ce qu'une représentation, c'est une représentation one-shot et je suis allergique aux captations vidéo et les choses qui sont enregistrées puisque c'est le moment-là, alors qu'il y a eu 150 autres représentations. Alors oui, les enregistrements, il y a un petit quelque chose où est-ce que pas préparé et en plus enregistré, c'est de l'inconfort.
C'est de l'inconfort.
Ouais.
Mais j'aime ça quand même. Ce midi, je parlais de ça avec d'autres personnes qui étaient comme « Ah, moi, c'est vraiment... l'art vivant, c'est un choix conscient. Je déteste les choses qui sont... arrêter dans le temps, tu sais, les captations, les photos, les vidéos. Je fais juste comme de l'art vivant parce que ça existe comme plus après, tu sais. Y en a-tu d'autres que c'est l'idée de l'éphémère qui les attire dans l'art vivant versus quelque chose de capté, c'est un peu plus stressant, inconfortable?
Oui, c'est ça, t'as peur des suites, là. Tu te dis, mon Dieu, quelle connerie je vais dire qui va rester enregistrée et être écoutée par d'autres mondes.
Fait que là, j'essaie de travailler une connerie que je pourrais dire, mais j'en dirai pas le mois passé. Mais non, moi aussi, j'étais inconfortable quand j'ai vu que finalement, on allait être assis autour de la table avec, devant les micros. Puis ça, c'est plus la surprise. Ça, mettons, pour revenir à ta question de tantôt, là, comment tu te fais une image mentale de ce qui s'en vient, de ce que tu vas faire, puis c'est pas ça qui se passe. Fait que ça crée un inconfort, assurément, là. Mais là, je suis bien.
Les attentes versus la réalité.
Ouais, ouais, ouais.
Mais tu t'adaptes vite, dans le fond, parce que...
Ben, oui, c'est ça. On sort l'autre côté de soi. T'sais, dans le fond, quelque part, quand t'es... je m'attendais à un rôle un peu comme toi, tu sais, d'être plus passif, tu sais, t'assistes à quelque chose, puis bon, ben, t'as pas besoin de trop te livrer, puis machin. Alors que là, dans ce contexte-ci, là, où on a un micro devant nous, ben, là, faut que tu te livres un peu plus, faut que tu parles. Puis oui, je suis à l'aise de le faire, mais c'était pas ça que j'avais prévu, mettons.
Je comprends. Adrien, de ton côté?
Ben, pour moi, c'est sûr que là, je suis dans un... disons, un état d'esprit qui est plus dans l'action. Hein, avec la délégation, on fait plein de rencontres, de discussions tout le temps. On est vraiment, on voit tous les spectacles. Fait que je suis dans un état d'esprit qui est différent du vôtre, je pense, à ce niveau-là. Mais par contre, c'est sûr que j'ai fait 2-3 gouttes de petit pipi quand même dans mes culottes à l'idée de faire le podcast. Ben, j'en ai jamais fait. Et donc, c'est un petit peu stressant. Fait que je suis comme... qu'est-ce que je vais dire? J'ai déjà parlé de pipi, ça c'est fait, super.
Et voilà.
Je peux le cocher. donc voilà.
OK, super. Mais commençons, tu sais, le thème de la journée pro cette année, c'est les limites, qui est un thème assez large. Puis je suis curieuse de savoir pour vous, qu'est-ce que ça évoque, juste ce mot-là, ce terme-là, sans qu'on parle du thème spécifique à notre milieu culturel en jeune public, mais vraiment plutôt dans le sens large, quand on parle de limites pour vous, qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? C'est quoi les synonymes. Si on ouvre un peu là, le champ lexical des limites, qu'est-ce qu'on y trouve? Jacinthe?
Je pense que c'est les barrières qu'on se met nous-mêmes. T'sais, nos limites, nos propres limites sont souvent dans notre tête, mais, en fait, la majorité du temps. Mm-hmm. Même quand on parle financièrement ou autres là, qui sont plus tangibles un peu, je pense que ça reste des limites que si tu as de la créativité, tu vas réussir à aller encore plus loin puis ta limite, elle va être dépassée. Donc, je pense que la limite en général, dans toutes les sphères, c'est des barrières que nous, on se met ou que notre environnement nous impose.
Mm-hmm. On est notre premier limiteur.
Oui. Ouais.
Je comprends. Autre chose? Marilyn?
Bien, les limites, c'est jusqu'où l'élastique peut être étiré avant que ça pète. C'est tout. Je dirais juste ça comme ça. Dans toute situation.
Oui, super. Quelqu'un d'autre? François, t'as l'air?
Non, je trouvais que ce que Jacinthe a dit, c'était quand même assez juste. Tu sais, les limites, c'est souvent celles qu'on s'impose. Puis, pour moi, dans la question, il y a aussi franchir la limite. Tu sais, franchir la limite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire souvent, bon, mais se dépasser soi-même, aller vers l'inconnu ou essayer quelque chose qu'on a toujours voulu faire, mais qu'on n'a jamais fait parce qu'on s'était mis des barrières. Fait que oui, pour moi, dans le mot limite, il y a dépasser la limite aussi.
Oui. L'idée de dépassement. Est-ce qu'il y a comme l'idée du dépassement de soi aussi ou c'est plus dans l'idée de se faire dépasser nos limites, tu sais?
Ah, ça peut être des deux côtés. Tu sais, ça peut venir de toi, tu sais, tu te dépasses ou tu dépasses tes limites, ou quelqu'un ou une situation ou un spectacle, par exemple, pour faire un lien, qui t'amène dans des zones que tu n'es jamais allé puis qui te fait dépasser tes limites. Fait que ça, oui, ça peut venir de l'intérieur, mais aussi ça peut venir de l'environnement.
Hein. Ouais.
Il y a une dimension intérieure comme celle-là, celle qui est évoquée, de se dire ben c'est une limite où on est amené à se dépasser ou à la dépasser, mais sinon, moi, je pense qu'il y a aussi une limite qu'on impose ou qu'on affirme, ou on peut des fois, dans des situations, avoir besoin d'affirmer une limite puis de dire OK, là, c'est... Là, c'est assez. Je peux pas accepter ce genre de situation-là. Donc, moi-même, je me mets cette limite-là. Donc, je pense que ça vient avec un désir d'affirmation. Sinon, il y a aussi limite politique, les frontières. Ça peut aussi être ces limites-là. C'est ce que ça m'évoque.
Pour rebondir sur ce que tu dis, Nicolas, on dirait, moi, spontanément aussi, au niveau des limites, il y avait quelque chose qui était plus identitaire, qui était plus... On dirait, j'ai pensé en relation avec l'autre. Je pense aux gens en couple, des fois, est-ce que je respecte mes limites? Tu sais, quand est-ce que je dois faire preuve d'ouverture? Quand est-ce qu'il faut que je respecte une limite à moi? Il y a quelque chose d'un peu... une dimension identitaire, une dimension en termes des valeurs aussi.
Mm-hmm. C'est vraiment intéressant. Pour moi, l'idée de limite vient aussi avec le fait que des fois, c'est bon. Tu sais, c'est pas juste négatif. On dirait, quand je pensais à ce thème-là, j'étais comme, ah oui, tu sais, on a tellement de limites, ou je sais pas trop. Mais après ça, j'étais comme, tu sais, même en création, mettre des barrières, de choisir le terrain de jeu dans lequel on va travailler ou dans lequel on veut s'installer. Des fois, c'est le fun aussi parce que ça peut être des guides. Tu sais, les limites peuvent aussi nous guider à travers différents chemins. Puis, je suis intéressée à ce qu'on ouvre un petit peu l'idée de frontières, tu sais, parce qu'on parlait des limites qu'on se met à nous-mêmes, mais il y en a des limites réelles comme les frontières. Puis, je me demande, tu sais, c'est une grande question, OK? On s'entend. Moi aussi, j'improvise avec vous, là. Mais si on avait à décider aujourd'hui, est-ce qu'on veut des frontières ou pas? Mettons qu'il y en a, tu sais, on avait à ce choix-là, là. On est réunis autour de la table, on est les maîtres du monde, là, ou je sais pas trop quoi. Est-ce qu'on en met des frontières? À quoi ça sert, les limites géographiques? À quoi elles servent?
Ben là, c'est sûr, moi, je suis un grand radical. Hein, donc, pour moi, aucune frontière, on brûle les frontières. C'est comme ça que je le vois. Là.
J'adore. Mais le monde étant un grand monde.
Tout à fait. Puis, j'ai une vision un peu quand même de liberté pour moi là-dedans. Je trouve la frontière, l'entrave la liberté. D'un point de vue là, de pays, là, je parle, ouais. Tu sais. Donc, ouais, voilà.
Mm-hmm. Nicolas, Jacinthe, ensuite.
Oh, oui, j'ai vu un meme qui disait « Les frontières, on les a inventées, mais ce qui va toujours exister, c'est les mouvements de migration. » Donc c'est comme si, en tout cas comment je l'interprète là, c'est que on s'est construit ces frontières là pour mettre des limites justement par rapport à ces migrations là. Mais je pense que, en tout cas, j'aurais beaucoup plus tendance à défendre les mouvements de migration que de défendre les frontières.
Mm-hmm.
Sur ce que ça m'évoque cette image là.
Mm-hmm. Jacinthe?
Ben, moi, j'avais une question pour Adrien qui dirait qu'il n'y aurait pas de frontières du tout. Là. Est-ce que les gens auraient, admettons, ta maison, là, ta porte, donc, elle serait toujours ouverte pour tout le monde? Pour toutes?
Ah oui, c'est une bonne, très bonne question, ça. Non!
Mais j'adore, ça amène la question de la limite collective versus ouais, la limite individuelle. Tu sais, c'est comme... Je trouve ça intéressant. T'as-tu plus que non à répondre? T'as le droit de répondre juste non.
Est-ce que j'ai juste non à répondre à ça? Ben, c'est parce que je le vois plus en termes de tu sais, on dirait quand on parle des pays puis tout ça, puis des frontières, je trouve qu'on met les gens dans des boîtes, on oublie leur humanité, tu sais. Puis c'est pour ça que pour moi, ça me dérange à ce niveau-là, tu sais. Puis après, je trouve que dans notre quotidien, ensuite, tu sais, c'est... S'il faut que j'aie une porte chez moi puis je puisse la barrer pour protéger quand même mes affaires, c'est pour moi, c'est normal, ça, tu sais. Mais au terme de... Quand on voit une vision globale, c'est là que ça me dérange plus.
Mm-hmm. Ouais. Marilyn?
Bien, si collectivement, c'était tout sur le même mode, c'est-à-dire que ta maison est ma maison et ma maison est ta maison, puis que c'était ça le deal. La seule affaire, c'est que c'est jamais ça le deal. Mm-hmm. Il y a toujours quelqu'un qui va vouloir prendre avantage d'un jeu qu'on a décidé de faire. Mais moi, je serais très, très prête à habiter pendant un an à tel endroit, dans une maison, puis il y a quelqu'un qui habite ma maison, puis moi, j'habite une autre maison pendant un an, puis après ça, tu sais, parce que les frontières, ben on le sait, ça crée des guerres tout le temps, tout le temps, d'une manière ou d'une autre, ça en crée autant pour ceux et celles qui voudraient rentrer que ceux et celles qui voudraient en sortir, donc.
Mais c'est comme si ça prendrait un consensus où
mondial
où tout le monde adhère à cette mentalité là.
C'est ça. Puis je pense que
ça serait...
Dans notre monde présentement, ça serait difficile.
Je comprends.
Moi, on dirait que c'était ça que j'avais envie d'ajouter. Ah, tu voulais peut-être donner
c'est
la parole
grave,
à Jacinthe.
C'est pas grave,
non, mais par rapport aux frontières puis aux deals, mettons, j'avoue qu'en ce moment, je jaillis pas la frontière entre le Canada puis les États-Unis, par exemple. Dans le contexte, je trouve ça le fun, Kenling, entre nos deux pays. Ouais. Mais a priori, philosophiquement, je suis assez d'accord que j'aime bien l'image, tu sais, de dire, ben oui, pour les frontières, mais... Encore plus gros oui pour la migration puis la circulation entre les États. Fait qu'il y a moyen peut-être d'avoir les deux, à la fois des frontières qui délimitent un peu les pouvoirs d'un et de l'autre, mais aussi la possibilité de passer d'un à l'autre de façon plus fluide, là, mettons. Mais là, regarde, mm-hmm. je suis dans la philosophie et politique.
Oui, qu'il y a moins de hiérarchie dans qui a le droit de passer d'un côté ou de l'autre. Ouais.
Mais
Jacinthe?
C'était un peu dans ce sens-là que je voulais que j'amenais l'analogie de la maison. C'est juste parce que, automatiquement, si t'es le dirigeant d'un pays, admettons, là, ça va devenir comme ta maison. Donc, si tu dis non à fermer ta porte de maison personnelle, si tu es le dirigeant d'un pays, tu vas avoir des ressources, tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir des choses que tu vas vouloir garder pour ton peuple, pour tes gens, pour ta famille. Dans le fond, donc, tu sais, je pense que les frontières, au-delà de ce qu'ils sont devenus maintenant, là, où est-ce que tu disais qu'on déshumanise les gens, là, mais tu sais, s'ils étaient mieux organisés, encadrés ou ouvertes ou peu importe, ce serait correct. C'est pas tant la frontière ou la limite qui est négative que le fait que maintenant, les personnes qui organisent ces frontières-là sont... c'est vu de façon négative.
Hmm. C'est ça. Mais, tu vois, c'est intéressant parce que moi, ça m'a amené à l'idée de, mettons, philosophiquement, d'avoir un monde où tout le monde a un consensus où c'est comme chez toi, chez moi. Je trouve ça intéressant. Alors que dans le concret, dans le pratique, il y a nulle part où je trouve que c'est plus... que j'ai plus d'agentivité que dans un petit espace. C'est quand la limite, elle est assez petite, une municipalité ou mm-hmm. une école. Ou, tu sais, comme quand mon radius d'action ou de présence est réduit, je trouve qu'il y a comme quelque chose de plus... le sentiment de pouvoir collectif est comme plus grand, tu sais. Je me dis, comment... Est-ce que c'est réellement possible de penser que, mettons... pas de frontières ou un monde grand où tout le monde a un consensus, il faut arriver à un consensus de tout le monde, versus s'il y a plein de petites, très petites frontières, mais qu'il y a beaucoup de perméabilité entre, mm-hmm. est-ce que si toutes ces petites frontières nous aideraient pas à plutôt être dans des consensus, genre?
À mieux gérer le tout,
maintenant. Ouais. En tout cas, ça me questionne beaucoup, cette notion-là de l'idée versus le concret, comme. Marilyn, t'as de l'air...
Ben, moi, je mettrais même pas des petites frontières. Parce que, admettons qu'on peut emprunter les maisons de tout le monde, mm-hmm. ben, c'est se détacher des biens matériels. Puis c'est ça qui est le problème, l'accumulation de ces biens matériels-là. Les biens matériels, ça m'appartient, c'est ça qui est le problème. Donc, si les choses appartiennent à tout le monde, bien, ça veut dire qu'on en prend soin, tout le monde, de manière égale. Hmm. Là, on ne prend pas soin des choses de manière égale et des êtres également.
Ouais.
Donc, voilà.
Ouais.
Moi, je suis tellement d'accord avec toi. Tu sais, je pense que cette question de frontières-là est beaucoup plus difficile. T'sais, quand on parle des ressources, tout ça, tant que le logement, ce n'est pas un droit, bien, forcément, je vais devoir barrer la porte de ma maison parce que je sais qu'il y a plein de monde qui sont dans le besoin en ce moment. Tu sais, donc, oui, il y a comme cette idée de... On crée un... je sais pas c'est quoi le mot en français, là, un...
Dis-le en anglais.
Un manque, là, un scarcity, là, un vide. Là, on crée comme un... Il y a un besoin qui est comme saignant, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est vrai que si on mettait des choses en place pour régler ce besoin-là, mais après la frontière, en effet, on s'en fiche pas mal, tu sais. Mm-hmm. Même chose avec le droit, je pense au droit à la nourriture. T'sais. Est-ce que les gens devraient pouvoir tous payer à manger, mm-hmm. même s'ils n'ont pas tout accès au même salaire, au même revenu? Est-ce que les gens qui sont pauvres pourraient aller à l'épicerie puis juste prendre leurs choses? Mm-hmm. Je ne sais pas, il y a cette frontière-là aussi.
Que les besoins de base soient comblés.
Oui, tout à fait.
Pour tous et toutes.
Mais j'ai l'impression qu'on est tous et toutes d'accord sur ces affaires-là, sur cet idéal-là, où tout appartient à tout le monde, puis tu sais, je pense que tout le monde veut la paix, tout le monde veut que ça se passe bien, puis tout le monde a des bonnes idées, mais parce que ça me préoccupe, moi, beaucoup aujourd'hui, comme j'imagine beaucoup de monde, là, tout ce qu'on voit à la télé, aux nouvelles, tous les problèmes qui ressurgissent, puis j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on est conscient de ça, qu'on est au courant de ça, de ces problèmes-là, de limites, de guerre intestinale, puis je sais pas si on peut dire ça comme ça, là. Mais comment on y arrive, comment on fait pour se défaire de ça, puis concrètement, qu'est-ce qui est possible de faire pour résoudre tous ces problèmes-là de magouilles, de gens qui se font élire, puis encore une fois, ils refont les mêmes erreurs, ils gaspillent encore l'argent. Là, je peux... En tout cas, je sais pas si je m'évade. Là,
c'est une grande question, m'égare. Quand même. Comment on fait pour régler question. Tous les conflits mondiaux?
Ouais.
Il n'y a pas de limite autour de cette table et de cette discussion.
Non, un petit ça. Mercredi après-midi. Oui, oui.
Puis on s'y attendait pas de parler de ça. Mais tu sais, moi, je rejoins... C'est sûr, t'sais, l'idéal absolu de tout le monde, la dépossession des biens puis tout ça. Mais il faut aussi qu'il y ait un partage de valeurs communes entre tous les humains impliqués dans le deal. Puis ça, malheureusement, là, j'ai peut-être l'âge que j'ai, mais je ne l'ai pas vu beaucoup dans ma vie. T'sais, c'est-à-dire, il y a toujours quelqu'un dans un petit groupe ou dans un très grand groupe ou dans un pays qui va vouloir, qui a d'autres valeurs, puis qui va essayer de tirer la couverture de son côté ou qui va tirer profit d'une situation de partage. Fait que ça, c'est sûr que... J'arrive pas avec un propos positif, là, mais dans le sens, c'est une réalité. C'est-à-dire, c'est la question des valeurs, à mon avis, est centrale dans le respect des limites. Mm-hmm. Là, je fais un lien, là, je fais plein de liens. Là.
Oui, oui. Puis avant de te passer la parole, Jacinthe, c'est comme tout l'aspect, pour moi, c'est comme, est-ce qu'il faut vraiment essayer d'avoir tous et toutes les mêmes valeurs ou faut essayer de vivre ensemble avec nos différences et nos différences de mentalité? Et même si je suis extrêmement en désaccord avec toi, avec l'autre personne, avec mon voisin, est-ce que je peux quand même partager une clôture? Tu sais, je sais pas. En tout cas...
Non, j'allais dire, c'est ça. Non, mais juste de poser la question, c'est une valeur en soi, tu sais, de dire je suis en désaccord avec toi, mais je te respecte. C'est une valeur en soi de dire le respect des autres, par exemple. Quand je dis valeur, c'est dans ce sens-là aussi.
Oui, oui, absolument. Ben, Jacinthe.
Moi, j'allais juste abonder dans le même sens parce que je me trouvais un peu cynique, là, parce que ma réponse à Marilyn aurait été oui, mais c'est très subjectif, là, prendre soin d'un matériel, d'une maison, d'un humain. C'est quoi la nourriture à servir? Ça fait que là, tu aurais, mettons, des centaines de milliers ou de millions d'humains qui se partagent des endroits ou des victuailles ou peu importe, là, ou la nourriture, ou ton frigidaire, ou ta maison. Mais il y en a une qui laisse ça sans dessus-dessous. Chaque personne aurait une culture différente. Il y en a qui auraient besoin d'un certain niveau de confort, d'autres que non. Il y en a qui mangeraient des fruits, des légumes. Il y en a d'autres que ce serait... Fait que ça serait tellement difficile à... gérer, que ça créerait des conflits, puis finalement, on mettrait des frontières. Fait que, ça reviendrait comme un peu au même, j'ai l'impression, parce que chaque personne aurait son propre concept de c'est quoi que je suis supposée de faire.
Ou alors, on aurait la phrase qui dit « gérer au mieux ». Au mieux de ce que tu peux faire, fais-le. That's it. Ouais. Puis au mieux de ce que tu peux faire, fais naître l'idée de la justice, fais naître l'idée de qu'est-ce qui est juste par rapport aux autres qui sont autour de moi. Donc, c'est sûr et certain, les systèmes de valeurs ne sont pas les mêmes, mais si le deal est fait et que la négociation, ça a été sur telle valeur, telle valeur, telle valeur, puis il y a un plancher à ne pas... puis dans le vocabulaire, c'est prendre soin de... C'est prendre soin d'eux. Si tu laisses tout ça à l'abandon, ben t'as pas pris soin d'eux. Fait que si c'est dans le vocabulaire, c'est clair, en tout cas. Mm-hmm. Là, c'est très philosophique. On est rendu vraiment très philosophique, là, présentement, là.
Ben, on dirait, pour moi, c'est pour ça qu'il y a des lois, hein, dans le sens, c'est pour ça qu'il faut légiférer, tu sais, pour ces... T'sais, il faut se ramener à nos valeurs pour mettre des lois qui concordent avec nos valeurs, puis qu'il y ait des conséquences aussi quand ces valeurs-là, puis c'est... comme objectivement, c'est pas respecté. Tu sais, on parlait de ces personnes qui, dans un groupe, veulent prendre toute la couverte. Tu sais, ben, on a laissé, je veux dire, au Québec ou même en Amérique en général, tu sais, on a délégiféré sur les grandes compagnies, les corporations, les grands marchés, etc. On a enlevé les lois systématiquement. Tu sais, alors c'est plus facile de s'en sortir avec... En volant, en prenant, en faisant de la corruption, en mettant dans les paradis fiscaux, etc. Je pense que, tu sais, il faut se ramener sur notre humanité, sur nos valeurs, en effet, puis après mettre des lois concrètes, claires, dans nos communautés. Puis je pense que ça revient un peu à ce que tu disais aussi, Rosalie, sur l'aspect communauté. On dirait dans la communauté, on peut s'organiser, puis ça avance comme plus vite.
Ouais.
Tu sais, puis je pense que c'est très juste là, de penser à ça dans notre communauté. Comment on peut s'organiser pour... mettre des lois ou se syndicaliser ou en tout cas, tu sais, vraiment genre faire respecter nos besoins pour le grand groupe, au fond.
Et qui ici s'imaginerait faire de la politique un jour? Nicolas? Adrien, Marilyn, Jacinthe.
François, non?
On en fait tous un peu de la politique, au sens, mettons, de ouais, parti politique.
Oui,
de...
oui, oui.
Ah non, moi, je ne veux pas.
Non, tu ne veux pas faire ça. Mais ça m'intrigue. Est-ce que, mettons, là, je dis, on s'imagine, là, ça peut être facile de lever la main, mais vraiment, vous vous dites, ah, peut-être un jour, je vais me présenter, Nicolas?
Ça m'a effleuré l'esprit. Plus je vieillis, plus je sens que je peux avoir une influence ou, en fait, j'aimerais avoir une influence concrète. Puis je pense que ça peut passer par cette option-là de s'impliquer sérieusement en me présentant, mais juste le dire, c'est la première fois que je le dis, tu sais, mais tu sais, j'ai... Oui, c'est enregistré. ça va peut-être revenir dans 15 ans. Là, Nicolas, t'es-tu inscrit, là? Mais c'est un de mes seuls espoirs concrets en l'humanité, c'est les élections.
C'est la démocratie,
c'est le vote, c'est de pouvoir mobiliser aussi, c'est de s'impliquer dans les communautés. Moi, pour moi, c'est essentiel, puis c'est là où je trouve beaucoup de solutions, mais à petite échelle aussi, parce qu'après ça, c'est comme tu vois les gens au top premier ministre, puis tu fais comme... C'est qui ces gens-là? J'ai l'impression, qu'est-ce qu'ils décident? Comment ils ont fait pour se rendre jusque-là? Je sens aucun sentiment d'appartenance avec ces instances-là, mais quand je suis au municipal, quand je regarde les élections, même provinciales, c'est peut-être là la limite, là, où je ressens de l'espoir sur un contrôle ou une certaine liberté de décision qu'on peut avoir, puis avoir une influence sur la bonne harmonie là, qu'on peut amener dans une société.
Mm-hmm. Jacinthe aussi, tu as levé la main, tu te présenterais?
En fait, moi, c'est mon plan déjà. J'attendais que mon plus jeune enfant soit un petit peu plus vieux, mais normalement, aux prochaines élections municipales, je devrais me présenter.
Wow!
Je supporterai ma candidature.
Okay. What a time! Tu aurais
déménagé, par exemple?
Pardon?
Tu pourrais être dans la même ville que toi, c'était au municipal.
Mais oui, non, effectivement. Mais oui.
Qu'est-ce qui t'a mené à cette réflexion-là, à te dire, oui, moi, quand mon plus jeune va être rendu assez vieux, j'ai envie de ça, j'ai envie de cette vie politique.
En fait, j'ai grandi là, avec de la politique. Je faisais partie du Forum Jeunesse Laval, d'ailleurs, quand j'étais plus jeune. Puis après ça, à l'école secondaire, j'ai été dans le gouvernement étudiant. Puis mon frère est conseiller municipal aussi à Boisbriand. Ça fait partie de ma vie, dans le fond. Là. Puis j'ai toujours voulu, sauf que mon mari, ayant ses propres limites, je pense, avait besoin que je sois plus à la maison, un petit peu pour encore, jusqu'à ce que le plus jeune soit un peu plus vieux là, pour pouvoir l'épauler le soir, puis la routine, puis etc. Dans 4 ans, là, il va avoir 10 ans, donc déjà, il va être pas mal plus autonome. Là, ça va aller mieux, ça va être plus facile.
Wow! Merci pour ton partage, Jacinthe. Marilyn? Toi, qu'est-ce qui t'amène à te dire « oui, je me présenterai »
Moi, je vais le dire dans un monde de licornes, OK? Oui. Moi, dans un monde de licornes, il n'y en a pas de parti parce qu'il y a des dérives de chacun des partis qui sont, que ce soit au fédéral, au provincial, au municipal, il y a toujours des dérives. Quand il y a une ligne de parti, inévitablement. Moi, j'ai beaucoup aimé les lois qui ont été votées transpartisanes, où est-ce qu'on avait un casting de gens intelligents dans chacun des partis, où est-ce que ces gens-là réfléchissaient de manière intelligente, appropriée, non partisane? Mm-hmm. Là, je me présenterais. Mm-hmm. Parce que tu as posé la question, est-ce que tu te présenterais? Oui, mais dans mon monde de licorne, où est-ce qu'il n'y a pas de parti?
Je comprends. Mais
moi, j'aimerais contribuer à la société, à faire avancer la société, mais de manière probablement indépendante, parce que c'est ça. Puis l'affaire, c'est que inévitablement, tu as besoin de cash pour être dans un parti. Je trouve que c'est d'une... C'est pour ça qu'on se retrouve présentement avec les gouvernements qu'on a à cause de ces lois-là.
Mais il y a moins de partis au municipal quand même. Il y a beaucoup, beaucoup de municipalités aussi qui n'ont pas de parti du tout. C'est seulement des personnes, des conseillers dans chacun des secteurs. Puis il n'y a pas de parti ou de ligne de parti nécessairement. Il y a de l'espoir sur certains projets, mais il y a beaucoup. Je pense que c'est ce qui correspondrait un peu plus à ton monde de licorne qu'effectivement au provincial, municipal, c'est plus difficile. Là.
Oui, mais j'aimerais ça être au provincial. Puis il y a des partis. Parce que Oui, je pense que j'aimerais travailler sur le provincial plutôt que le municipal. Ouais. Les lois provinciales m'intéressent. Mm-hmm. Ben, pas que c'est pas intéressant là, ou quoi que ce soit.
Ta vision est là.
Oui, je pense que je serais plus adéquate. Pour adéquate, j'aurais peut-être plus d'idées là qu'au municipal. Ouais.
François, la notion de transpartisanerie semblait te plaire aussi. Là, t'as comme fait « Ah oui! »
Oui, mais c'est ça, puis ça, oui. T'sais, j'irais dans ton monde de licorne. J'aurais... Non, mais là, je me présenterais peut-être avec toi. Ouais. C'est. Mais oui, c'est ça. On dirait que je vois, malheureusement, je vois plus les limites d'un parti politique ou de l'appareil politique que le pouvoir réel, pouvoir dans le sens de changer les choses, là, pas pouvoir power trip. Là. Puis moi, la raison pourquoi spontanément j'ai dit non, parce que bon, j'ai l'âge que j'ai, mais aussi parce que je me suis redonné un pouvoir d'agir dans ma communauté. Puis quelque part, bon, la politique, il y a de la grande politique, puis il y a de la petite politique, d'amener, par exemple, des artistes, là, je m'excuse, je fais des liens à la rencontre Théâtre Ado, puis aussi à mon travail en diffusion culturelle. C'est un geste politique pour moi aussi de programmer des spectacles en français, de donner de la place à la création ou de... prioriser, par exemple, la médiation culturelle ou les communautés. T'sais, j'ai l'impression d'avoir plus de, entre guillemets, de pouvoir, en tout cas dans mon domaine, que si j'étais en politique avec un grand P. La notion de politique à grande échelle m'attire moins, mais ce qu'on fait au quotidien peut avoir une saveur politique quand même.
Puis ça me rejoint beaucoup, en fait, ce que tu dis, parce que moi, j'ai commencé, dans le fond, plus avec une carrière d'acteur, puis j'ai eu de la chance d'avoir des contrats super pertinents, puis tout ça, mais plus je tournais, plus je me posais la question, à quoi ça sert ce que je suis en train de faire? Comme concrètement, là, à quoi ça sert? Puis c'est le fun parce qu'il y avait des gens qui pouvaient me rencontrer dans la rue puis ils étaient comme « Ah, oh, t'es bon dans ton show! » Puis là, j'étais comme « Ah, merci! » Mais genre, je sauve pas de vie, là. Tu sais, je suis pas en train de faire des opérations. J'avais pas l'impression de faire rien de concret, tu sais. Puis c'est pour ça j'ai décidé de faire un bac en enseignement. Tu sais, j'avais l'impression qu'il fallait que j'opère comme dans ma communauté, tu sais, que je rencontre les gens, que je sois vraiment avec eux. Puis à ce niveau-là, je comprends, là, avec nos projets, avec les gens qu'on rencontre, là, je trouve qu'on a un véritable impact. Puis c'est sûr que la politique, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis en contact avec des adolescents dans mon quotidien, à tous les jours, puis je vois quand même le monde dans lequel on s'en va. Puis c'est pas un monde de licorne, justement. Puis j'aime ça, moi, un monde de licorne. C'est ça qui me fait rêver. C'est ça que je veux qu'on redonne aux jeunes, cette capacité de rêver un monde meilleur versus se dire... ben je vais travailler dans l'entrepôt Amazon, puis tu sais, comme je veux les faire triper, de se dire comme non, on peut faire des projets, vous pouvez y arriver, vous pouvez réussir.
Le contact humain, finalement, qui donne comme un certain pouvoir d'agentivité, comme de se dire, ah, je mets un petit peu de bonté ici, dans cet espace-là. Au final, dans une très petite communauté, une classe ou une école.
Classe, une école, mais tu sais, surtout l'éducation, là, on s'entend, là, c'est genre, c'est le début, là, de leur donner des opportunités, puis de leur donner le goût de rêver à un monde meilleur, à une situation meilleure que ce que leurs parents ont eu, peut-être, tu sais, puis, ouais, voilà.
Ça me fait penser à quelque chose, une réflexion que j'ai eue il y a pas longtemps. Vous avez peut-être vu ça dans les nouvelles, mais Farnell Morissette, qui est un influenceur, très actif sur les réseaux sociaux, vulgarisateur, vraiment excellent, là, que moi, j'aimais suivre. Il s'est présenté, là, il s'est affiché publiquement comme futur candidat aux élections pour le PLQ. Et j'ai senti, à ce moment-là, quand j'ai vu l'annonce, comme une trahison. Peu importe ce que ici les gens autour de la table vont voter, c'est quoi nos allégeances. Je respecte toutes les allégeances, là, jusqu'à une certaine limite, là, mais, mais quand même, c'est plus l'idée d'avoir franchi, là, on est encore dans la thématique, je vais utiliser cette thématique-là, il a franchi cette barrière-là, tu sais, de personnes qui étaient censées avoir une certaine neutralité. Après ça, il se défend de ne pas toujours avoir eu cette prétention prétention-là, là. Mais pour moi, je trouvais ça super important, tu sais, de suivre quelqu'un qui peut vulgariser et qui critique aussi. Puis même moi, je me vois aussi là-dedans. J'aime ça, avoir cette liberté-là. Sauf qu'il y a un moment donné où si tu franchis cette limite-là, où est-ce que tu te présentes et tu as une allégeance puis tu t'affiches, tu sais, comme dans un parti, ben c'est comme si tout d'un coup, ça nous amène à devoir... afficher une autre image ou ne plus avoir cette liberté-là de personne qui est neutre et peut critiquer, peut amener toutes sortes d'idées, des réflexions. Et ça me fait peur aussi en tant qu'artiste. Si, disons, je décide de porter le chapeau, même que ce soit producteur aussi comme co-directeur, quand je franchis cette limite-là puis j'ai une certaine responsabilité, jusqu'où est-ce que je peux aller dans... cette liberté-là d'expression, de critique. Et, mm-hmm. En tout cas, je trouvais ça intéressant. Ça me faisait penser un peu à tout ça. Là.
La partialité puis l'impartialité ont été récemment quand même très nommées par différentes personnes qui ont décidé de sortir comme du journalisme, s'en aller vers les métiers d'influence, en gardant ce branding-là quand même d'information. Souvent, c'est quand même nommé, tu sais, moi, je fais mon possible pour être éclairé, informé et neutre. Je dirais pas qu'ils disent tout ce qui est tout qui sont neutres, mais en tout cas, il y a quand même un désir d'information du public, mais qui désire sortir des structures traditionnelles de journalisme parce que trop contraignantes, trop restreignantes par rapport aux décisions puis aux angles que tu peux choisir. Je trouve que c'est comme intéressant, tu sais, ce sentiment-là d'un influenceur qui décide de s'associer à un parti politique puis qu'il y a comme presque un sentiment de trahison. Ouais, tu sais, je trouve que c'est intéressant, cette notion-là.
Puis c'est que ça défait après ça, excuse-moi, mais ça défait après toute la confiance que je peux avoir aussi en cette
personne-là. En son information.
Quand je vais l'écouter, tu sais, parler, mm-hmm. je vais dire « Ah ouais, mais tu sais, là, t'es rendu de l'autre bord, là, t'es rendu libéral, puis tu sais, t'es plus neutre, ou en tout cas, tu sais, je le crois plus, on dirait. »
Je comprends.
Mais non, ce que j'allais ajouter, c'est que ça me fait penser à Stephen Guilibeault. Okay, qui a été un grand activiste écologique, tout ça. Puis il a décidé de se présenter. Puis il a même été au pouvoir pendant plusieurs années, mais c'est ça, son move a toujours été un peu discutable. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont sentis trahis par ce geste-là. Mais en même temps, on le comprend parce qu'on dit, bien, le vrai pouvoir, il est là. Puis si tu veux changer les choses, c'est là que ça se passe. Mm. Mais c'est ça, il a osé, quelque part, franchir sa limite, justement. Puis il a été... en tout cas, cet exemple-là, je le trouve assez parlant de okay, quand est-ce qu'on y va, là? Tu sais, qu'on parle, là, je vais aller chercher le vrai pouvoir, d'une certaine manière, puis vraiment changer des choses. Puis est-ce que son bilan, j'ai hâte de voir quel bilan il va tirer, disons, de son passage en politique. Il a assurément frappé des nœuds, là.
Steven?
Oui, absolument, assurément.
Ben oui, il a démissionné.
C'est ça, je sais, c'est ça.
un petit nœud, mais moi, je respecte même sa décision, même si je me sentais aussi, encore une fois, trahi. Puis je disais, tabarnouche, il passe de l'autre côté. Mais je voyais un peu sa stratégie de se dire, bon, mais je vais avoir plus de liberté. Ou, en fait, c'est là où ça se passe, les décisions, les vraies décisions se passent pour essayer de faire changer les choses. Mais au bout du compte, il s'est frappé... un gros mur, j'ai l'impression.
Ben c'est ça. Est-ce qu'il avait vraiment la liberté? Parce qu'il faisait partie d'un parti. Mm-hmm. Ouais, il n'a pas la liberté.
Non.
Mm-hmm. Il s'est fait censurer, probablement, ou il ne pouvait pas faire valoir toutes ses idées.
On va l'appeler, on va lui demander.
Ouais, mais oui.
Je pense aussi que c'est des votes démocratiques, là, même à l'intérieur d'un parti. Là, je veux dire, oui, il faut que tu swinges la ligne de parti, mais aussi, c'est que si tu proposes un projet de loi ou peu importe, ben, tes collègues, ils ont le droit de voter contre, là. Donc, ça se peut que, tu sais, finalement, lui, il avait une vision, mais que sa vision n'était pas partagée par le reste de son caucus ou peu importe. Donc, à ce moment-là, il s'est dit, OK, mais on sait-tu pourquoi il a démissionné?
C'était par rapport à la décision liée à l'Alberta, ça se peut-tu, où lui, c'était sa limite, là. C'était de pas...
le pipeline, quelque chose, ou non?
Mais c'était de pas... le pipeline, c'est ça, de financer le pipeline, pour lui, c'était la limite. C'était, il pouvait pas composé avec ça. Là. Il n'était plus dans ses valeurs, de ce que j'ai compris, en tout cas, je ne sais pas si...
Pour conclure un peu cet épisode, je me demande, est-ce qu'il y a quelque chose à propos de la thématique des limites? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a trotté dans la tête depuis ce matin, parce qu'on a eu une table ronde ce matin sur l'art de l'inconfort? Ensuite, on a vu différents, comme des mini-vitrines artistiques. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est popé dans la tête, qui vous trotte dans la tête par rapport à cette thématique-là, que vous avez dit « Ah, ça m'a... j'ai eu cette pensée-là ». Y a-t-il quelque chose qui n'est pas obligé d'être en lien avec toutes les frontières et tout vers la tangente politique qu'on a pris là, dans cet épisode, mais y a-t-il une réflexion qui vous habite là, aujourd'hui par rapport à cette thématique-là, Marilyn?
En fait, moi, ce que je trouve de magnifique avec l'inconfort, puis que ça soit présenté aux adolescentes, aux adolescents, c'est que la vie, c'est pas confortable. Probablement qu'elle le sera jamais, parce qu'il arrive toujours, quand t'as l'impression que ton assise est correcte, il y a toujours quelque chose qui arrive, qui défait tes plans, ou qui les modifie. Puis je pense que c'est ça qu'il faut apprendre à dealer avec, c'est-à-dire que on va toujours être ébranlé. La seule affaire, c'est qu'il faut être capable de, avec quelque chose, un troc qui nous rentre dedans, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets en lamelle pour que le troc passe au travers de toi? Est-ce que tu te pitches dans le fossé? Est-ce que tu sautes parce que tu as des super pouvoirs? Tu sais, c'est ça. Fait que moi, l'inconfortable, je trouve ça sain, en fait, dans un sens. Puis, tu sais, on est dans une société qui est très, très protectrice, je crois. Tu sais, on essaie de mettre des coussins partout, on essaie d'avoir des jambières, on essaie de... Mais c'est pas ça, la vie. Puis l'affaire, c'est qu'on arrive à un moment donné, puis ça se peut que le toit coule au mauvais moment, ça se peut que... tu sais, fait que veux, veux pas, si on n'apprend pas aux enfants, aux ados, aux jeunes adultes et aux adultes que le toit, il peut couler quand c'est pas le moment, bien, c'est sûr qu'on va avoir des gens qui vont faire « Qu'est-ce que je fais? » Alors que si on a le swivel de faire « OK, ben oui, mais c'est arrivé au bon moment parce que finalement, à tel moment, je suis dispo là, pour avoir ça. » Puis il y a toujours des solutions. Moi, c'est ça qui... Dans l'inconfortable, il y a toujours des solutions. C'est quoi ta solution pour absorber cet inconfortable-là?
Avoir le swivel.
J'adore. Avoir le swivel, oui. Ça, c'est un vocabulaire que j'ai commencé à adopter pendant la COVID. C'est une période swivel. Tu peux y aller de tous les côtés. Mais t'es encore accroché. Mais t'as du swivel, par exemple. Fait que ouais, ça serait ma réflexion.
Merci. Autre chose?
Moi, il m'est venu une réflexion pendant la conférence de ce matin où je me suis dit... en ayant joué sur scène devant des ados, on parle de l'inconfort que les ados peuvent vivre, mais ce qui est aussi paradoxal, c'est que les acteurs et les actrices, les comédiennes, les comédiens sur scène vivent aussi un inconfort en rencontrant ces ados-là et en vivant avec eux autres cette expérience-là. Il nous est arrivé toutes sortes d'histoires. Je pense que aussi vous avez pu être témoin de certaines histoires. T'sais, on se fait pitcher des canettes, on se fait siffler, on se fait dire toutes sortes d'affaires. Puis moi je trouve que c'est une belle expérience, mais c'est une belle expérience inconfortable, mais mais en tout cas, c'est le fun de prendre conscience aussi ou de faire prendre conscience les élèves, le public scolaire de ça aussi, puis qu'on est dans une forme d'échange, de dialogue et qu'on est vivant là, avec eux autres là, dans cette salle-là.
Ouais. Oui, l'inconfort d'une personne est souvent partagé par la personne en face là, ou le groupe versus les personnes sur la scène. Effectivement. Une dernière chose, François, le mot de la fin.
Ouf, ça, c'est de la pression, par exemple. moi, ce qui m'a... Là, je ramène peut-être ça beaucoup au travail ou en tout cas au contexte. Tu sais, on est quand même à la rencontre théâtrale, le lien avec le public adolescent, ce qu'on peut dire aux adolescents, les limites qu'on peut dire dans un contexte scolaire, tout ça. Puis moi, je ne pouvais pas m'empêcher ce matin d'entendre la discussion que je trouvais fort intéressante, mais de penser au chemin parcouru. Bien sûr, il reste du chemin à faire, c'est sûr. Il y a plein de limites à franchir encore. Il y a Il y a des sujets encore tabous dans les exemples qu'il t'a donnés ce matin. Mais je me souviens d'une époque où on jouait dans des écoles secondaires, on jouait dans des gymnases d'école, dans des cafétérias d'école. Et là, aujourd'hui, bien que ça existe encore, il y a tout un réseau de diffusion de spectacles qui s'est organisé autour pour rejoindre le public adolescent et qui a surtout permis aux artistes d'aborder des sujets plus délicats, des sujets qui dépassaient certaines limites, chose qui n'était pas possible dans la cafétéria de l'école. Fait que ça, je pense que ça, la RTA a joué un rôle là-dedans, mais tous les diffuseurs pluris qui font aujourd'hui de la diffusion pour ados dans des conditions, je dirais, professionnelles et plus que respectables, permettent aux ados d'avoir accès à des propos un petit peu plus délicats ou sensibles, puis donc de dépasser ces limites-là qu'on avait à une autre époque. Fait que ce chemin-là, il est déjà dans notre poche, là. Mm-hmm. On a déjà... Fait que juste de se réunir, puis qu'il y ait un paquet de diffuseurs puis d'artistes ici qui parlent de théâtre, de création pour ados, ouais. Je trouve ça merveilleux. Mm-hmm. Théâtre et danse, là. Mais là, bien sûr, il y a du chemin encore à faire. Mais il faut quand même réaliser le chemin parcouru.
Absolument. Nous, ouais. Absolument. Bon, Adrien, vas-y.
Ouais, non, mais, mais pour rebondir aussi sur ça, tu sais, le théâtre est quelque chose de formidable pour la rencontre avec l'ado, hein, ça tombe bien. Mais parce que, justement, sur ses limites, sur l'inconfort, sur la proximité qu'on a, un baiser sur son téléphone, mm-hmm. c'est pas la même chose qu'un baiser sur scène.
Absolument. Hein,
la nudité sur un téléphone, ça n'a rien à voir avec la nudité au théâtre. Tu sais, puis on leur... C'est tellement fort, puis juste la pièce qu'on a vue hier, il y avait un bec, puis c'était même pas un vrai bec, c'était, il y avait une clémentine entre les deux bouches, puis il y a eu des émois, là, vraiment, ouais. là, dans la salle, mais c'était électrique, tu sais, puis je suis sûr que ça a pu amener des conversations extraordinaires sur peut-être l'intimité, sur l'amour, qu'il n'y aurait pas eu juste à, même s'ils voient ça déjà sur leur téléphone, parce que la proximité, ben c'est pas la même.
Mm-hmm. Bien, écoutez, tout le monde, merci infiniment pour cet épisode incroyable où on ne savait pas où on s'en allait, mais on est allé quelque part. De toute évidence, on est allé quelque part. Alors, Jacinthe Laurier-Thibault, merci, Réseau Petit Bonheur.
Merci.
François Urtubise, Ville de Laval, merci d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir.
Marilyn Perrault, Théâtre Inc., merci. Yes.
Merci.
Adrien Bélougou, merci.
Oui, merci.
Enseignant, acteur, beaucoup de titres, délégation du Cube. Et Nicolas Centeno, création unique nu. Merci d'avoir été là.
Merci à toi, Rosalie.
À la prochaine, tout le monde!